Ok, donc voilà, histoire mais, de dire que... Mais... Bah, je te donnerai celui-là déjà. Mais de toute façon, bon, j'ai quand même raccourci quand j'ai vu l'ampleur du travail. Normalement, versets 17 à 43. Alors, si on veut vraiment fouiller le texte, c'est impossible, ouais, tout simplement. Donc, pour une soirée, il me semblait que s'arrêter au 29 était peut-être une bonne mesure. Et j'ai eu raison. Voilà. Alors, rappelons-nous que cette section qu'on entame ce soir fait partie de la deuxième partie du discours d'Étienne. Donc son deuxième gros argument, si vous voulez, où il va parler de Moïse pour essayer de démontrer en quoi il n'est pas auteur de déni de blasphème concernant Moïse et la loi. Et puis, on verra la suite plus tard. Et donc, je vais essayer, tant bien que mal, de suivre le texte avec vous, mais on va se demander un volontaire pour nous lire la péricope 17 à 29. Quelqu'un qui l'a sous les yeux.
Oui. Je passe.
Oui, ok.
17 à 29. Hein. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge pour nous ?» Sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Jusque-là ?
Oui. Très très bien. Merci pour la lecture. Alors, comme d'habitude, bon, je ne vais pas lire les questions, hein, vous les avez sous les yeux, vous les avez peut-être préparées. Qu'est-ce qui nous frappe déjà dès que commence le verset 17, dans sa version « Comme approchait le temps », etc.
Où devait s'accomplir la
promesse. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on recueille comme info dans ce verset ? Ou qu'est-ce que vous en avez tiré, ou en tirez maintenant, si vous ne l'avez pas fait ?
Mais que le temps est venu.
Oui, mais ça veut dire quoi, concrètement ?
Ah.
Qui est à la manœuvre de ce temps ?
La réalisation des promesses que
exactement.
Vous avez
faites. Donc déjà, pourquoi ça commence comme ça ? Parce que la promesse a été faite et elle est tenue.
Voilà.
D'accord ? Donc il y a cette première raison. La deuxième, comme je l'ai souvent évoqué depuis qu'on fait le livre des Actes, ben, c'est que Dieu est le maître du temps. Il décide le bon moment, le moment opportun pour entamer quelque chose. Et il se souvient donc de sa promesse faite à Abraham. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ?
Avec les Hébreux grandissent en nombre.
Ok, donc le peuple s'accroît, se multiplie en Égypte. Ça reprend des termes d'ailleurs de la Genèse. Hein. Mm-hmm. Pour ceux qui ont encore les souvenirs, croissez, multipliez, etc. Mm-hmm. Donc, ils obéissent à la loi que Dieu leur a donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas encore sous la servitude à ce moment-là, et on s'aperçoit donc que Dieu prend soin d'eux. Ce petit clan de Jacob est devenu un peuple qui grandit, qui se multiplie. On pourrait dire que Dieu veille sur son peuple, tout simplement, sur sa promesse et sur son plan. Et ça, c'est important. Je pense que c'est tout ce qui se contient dans ce verset. Et puis, voilà, un peu comme dans les contes, jusqu'à l'avènement d'un autre roi d'Égypte.
Eh oui, ça va se gâter.
Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir là? C'est d'ailleurs très proche d'Exode. Hein. Exode 1, verset 8, nous parle de cet épisode, de l'avènement d'un nouveau roi, qui n'a pas connu Joseph, précise notre texte. C'est-à-dire, Joseph étant mort, ses frères étant morts, comme on l'avait vu la fois passée, il s'écoule un temps, le temps nécessaire à la croissance du peuple de ce clan de Jacob, et tout d'un coup survient une nouvelle dynastie, c'est ça que dit le texte en fait, hein, parce que on se rend compte que pour ne pas avoir connu, il a fallu que s'écoule un certain temps. Et les historiens, commentateurs aussi, pensent qu'il s'agit de la 19e dynastie d'Égypte, c'est-à-dire plus ou moins en 1320 avant Jésus. Dynastie fondée par Ramsès Ier, et sans doute que le pharaon au pouvoir est l'un des descendants, soit de son fils, Séti Ier, soit de Ramsès II. Voilà. Donc, c'est un de ces deux pharaons est le fameux père de la fille de Pharaon qui va recueillir Moïse. Donc, cet autre roi, constatant la croissance du peuple, qu'est-ce qu'il fait en arrivant au pouvoir?
Il veut diminuer leur nombre. Il va les écouiller.
Donc il ne veut plus qu'ils prolifèrent, c'est sûr, tout ça, oui, tout à fait.
Il a essayé de manipuler les sages-femmes, enfin on le voit dans le
Genèse. Quand tu regardes dans les textes de l'Ancien Testament.
En plus, il ne savait pas. Lui, la puissance de Dieu, puisqu'il n'a... Il y avait du temps qui s'était passé, donc il ne connaissait pas toute l'histoire, l'intervention de Dieu.
Donc vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois, je crois. Les Hébreux occupent un certain nombre de terres fertiles proches du delta du Nil, et ils sont dans l'opulence, on va dire, l'abondance. Hein. Ils n'ont aucun souci. Il semblerait que ce nouveau roi d'Égypte voit cela plutôt d'un mauvais œil. On ne connaît pas la raison fondamentale pourquoi c'est ainsi. Sauf que nous savons que la promesse faite à Abraham mentionnait bien ce temps de servitude. Donc la servitude fait partie de la promesse, si vous voulez. Voyez ? Donc elle va s'accomplir au travers d'un roi, comme d'ailleurs Cyrus, hein, pour tout ce qui est Babylone et compagnie. On imagine bien que Dieu se sert des dictatures aussi pour son règne, pour l'avènement de son règne. Et le texte ici, en grec, précise, alors je ne sais pas selon la traduction, la top d'hyperfidement, qu'est-ce que tu as lu tout à l'heure?
Quel verset?
Oui.
Verset 19.
Il fait exposer les
nouveaux. Usant
d'artifice. Le texte parle plutôt, le grec va parler plutôt de tromperie.
Oui, il trompe notre peuple.
Donc, il y a sans doute une propagande qui est faite. Il y a une attitude perfide, un glissement sémantique, si vous voulez, où tout d'un coup, ce peuple qui avait été accueilli et dont un de ses pères avait été premier ministre d'Égypte, eh bien maintenant, on va le spolier complètement. Et on s'attaque, et là, on rejoint les grands thèmes de tout le judaïsme. On s'attaque à la race, c'est ce que le grec dit. Donc on est en plein antisémitisme. Le premier grand antisémitisme de l'histoire commence là. C'est pourquoi la Pâque est importante pour les Juifs, se souvenir que tout a commencé là. Donc, le clan de Jacob est attaqué, et l'expression utilisée par la suite, c'est « on fait exposer les nouveau-nés ». Est-ce que vous avez trouvé une explication à cette thématique?
Abandonné.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, alors il y a des versions qui contiennent le mot « abandonné » en français.
Mmh.
Mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur la...
Oui,
l'exposition des faits? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je veux dire, est-ce que d'office, le changement de politique, c'est on fait exposer ou abandonner les nouveau-nés?
Non, ils veulent les tuer d'abord.
Oui, les sages-femmes agissaient oui, à un moment non, de la
mais
naissance.
Mais même avant cela.
Avant cela.
Si on les fait travailler de plus en plus.
Alors, voilà.
Ah oui,
donc, dans Exode, on trouve au verset, au chapitre 1, pardon, à partir du verset 11, un certain nombre d'informations. Tout a commencé d'abord par des corvées. Ah, vous n'êtes pas utile à l'Égypte, vous êtes dans l'opulence, maintenant vous allez travailler un peu pour nous quand même. Donc ça commence par quelque chose que tous les peuples ont connu. Voilà, on travaille pour le roi de lait du coin, et puis c'est bon. Et en échange, et ben on a la vie sauve et on peut manger, etc. On s'aperçoit que dans ces corvées, enfin je parle de l'Exode ici, hein, il y a d'abord la construction de deux villes, Pithom et Ramsès, ce qui corrobore ce qu'on a dit tout à l'heure sur les pharaons, c'est pas inintéressant. Et puis, verset 13, on entre dans une servitude, le texte dit « rigoureuse ». Donc là, c'est plus la petite corvée, là c'est un peu plus vache. Et puis, verset 14, « travail rude », où ils doivent fabriquer des briques, travailler au champ, etc. Et puis enfin, verset 16, l'info que Étienne utilise dans son discours, l'abandon, entre guillemets, des enfants. Alors, il faut qu'on essaye de comprendre ce que veut dire ce terme. Ou exposition, parce que le grec dit exposition des enfants. Alors, il faut savoir tout d'abord une chose intéressante pour le premier siècle du temps d'Étienne, les non-juifs, qui avaient des problèmes, avaient pour coutume d'exposer leurs enfants à l'extérieur. C'est-à-dire, tout simplement, de les laisser crever, de les laisser mourir. Et les Juifs trouvaient que c'était une abomination, hein, cette manière que les païens avaient de se débarrasser de leur progéniture, parce que peut-être pas assez de pognon pour les élever, je ne sais pas quelle est la raison fondamentale, mais c'est la réalité. Vous allez me dire, quelle horreur
ouais.
Mais vous savez, et je ne parle ni de l'Afrique, ni de l'Asie, ni de l'Amérique du Sud, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1800, et j'en veux pour preuve la fondation de John Bost, hein, John Bost qui était pasteur suisse d'origine, pasteur à la force en Dordogne, a institué des asiles parce qu'il y avait un certain nombre de choses abominables qui se déroulaient. Alors, non seulement on laissait crever les vieillards, on ne s'occupait pas des handicapés, etc. Mais pire que ça, on jetait sur le tas de fumier les trisomiques, par exemple. Parce que non viables, d'après les gens. Donc on les jetait sur le tas de fumier, là où règnent les coqs, les poules, tout ce que tu veux. Et là, il y a en quelques heures, c'était fini. Et John Boss s'est indigné de tous ces comportements européens. De France, pays, vous savez, de la liberté, de l'égalité.
Mais de temps en temps, on entend qu'il y a un enfant qui a été abandonné.
Alors, on pourrait parler d'infanticide, tout simplement. Oui, oui, oui. Et il y en a encore beaucoup aujourd'hui, dont certains passent en jugement, d'ailleurs. Hein. Donc là, on parle quand même des années 1844. C'est pas si loin à l'échelle de l'histoire. Il faut se rendre compte de ça. Donc, c'est une attitude... Alors bien sûr, on devine bien que cette exposition des enfants nouveau-nés mâles hébreux, ce n'est pas une action spontanée. Ce n'est pas quelque chose que le peuple souhaite. On leur impose, c'est-à-dire au travers de la naissance, et notamment du travail des sages-femmes, on leur impose non pas de les tuer, personne ne les égouille, on les jette juste à l'eau. Vous voyez ? Non, la différence. Voilà. On ne sait pas qui le fait. Alors, on demande aux sages-femmes que ce soit fait. Est-ce que c'est les sages-femmes qui le faisaient ? Est-ce que c'est des militaires ou des contremaîtres égyptiens qui s'en occupaient ? Bon, Exode...
Excuse-moi, mais il y avait peut-être aussi des contrôles qui passaient dans les maisons, puisque Ils ont caché,
ah, ils caché l'enfant, ça c'est sûr. Hein.
Ben ouais.
En tout cas, bon, on sait que l'élimination était par noyade, tout simplement. On les jetait au fleuve, dans un fleuve impétueux, qui est le Nil. Hein, donc voilà. Et donc, quel est le but? C'est une forme de génocide, si vous voulez. Donc on tue tous les nouveau-nés mâles. On ne garde donc que les filles. Pourquoi?
Elles sont utiles, peut-être.
Ah, ben peut-être, oui. Alors, elles sont utiles sexuellement, déjà. Elles sont utiles dans leur version reproductive, c'est-à-dire elles peuvent donner des enfants à la nation égyptienne. Et puis, elles sont commerciables comme esclaves, tout simplement. Donc là, il y a un profit à faire avec les filles, mais pas avec les mecs, puisque les mecs, c'est ceux qui transmettent justement leurs spermatozoïdes et qui font que le peuple s'accroît. Donc si on diminue la production de spermatozoïdes, ben, on n'a plus de peuple qui s'accroît, tout simplement, et c'est terminé au bout de quelques générations. Et on pourrait même parler peut-être d'assimilation par les femmes, tout simplement, de cette fameuse race dont on parlait tout à l'heure. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important à comprendre. Et donc, si on va au bout de la démonstration, on se rend bien compte que l'exposition aux eaux du fleuve, par exemple, c'est synonyme de tuer, c'est synonyme de faire mourir, tout simplement. Et voilà pourquoi certaines de nos traductions préfèrent garder ce qui est proche du grec, rendant presque le texte incompréhensible, à la limite.
Oui.
Mais si on n'a pas recours à l'Ancien Testament... Ben on ne sait pas de quel... C'est le bain de soleil,
non? Oui.
On ne sait pas. Voilà. Alors...
Je peux poser une question?
Oui.
Ben, c'est pas, ça me titille juste maintenant, mais est-ce que c'est pour ça que le fait d'être juif se transmet à partir de la mère? Est-ce que c'est pour garder la
femme? C'était sans doute déjà avant. Mais en attendant, ça ne fait que renforcer les choses.
Ben oui.
C'est clair que si... les femmes transmettent la vie, c'est Ève, c'est son nom, hein, celle qui transmet la vie, donc qui transmet la potentialité, la possibilité qu'il y ait un peuple. Sans elle, il n'y a pas de peuple, tout simplement.
Est-ce que ça veut dire que les enfants qu'elle donnait aux Égyptiens étaient considérés comme juifs quand même, pour le peuple juif?
Ah. Toute mère juive, même dont la progéniture serait l'issue d'un viol, fait que l'enfant est juif, ça c'est clair. Même si c'est un étranger. Ça ne change rien. Après, quand Israël est infidèle, et qu'on oublie ce genre de choses, et qu'on oublie de circoncire son fils premier-né, et tous les fils, ben voilà, on entre dans quelque chose qui ressemble à l'assimilation, par conséquent.
Oui, mais ça, pour les Égyptiens, c'est pas leur pensée. Eux, ils ne savent rien de tout ça. Pour eux, c'est avoir des Égyptiens par le.
Exactement. Par les c'est, ouais. C'est accroître leur peuple qui leur importe ou s'enrichir au détriment de celui-là. Voilà, parce que ça devient leur monnayable, hein, toutes ces choses. Et puis voilà que la promesse ne fait que poindre un petit peu plus, avec, à moins que vous ayez d'autres questions sur ce verset 19. Hein. Donc la promesse point un petit peu plus avec le verset 20. On nous rappelle de nouveau la même expression « comme approcher le temps ». Ici, c'est « en ce temps-là ». Donc toujours Dieu à l'œuvre derrière tout ça, qui fait naître ce fameux Moïse.
J'ai encore une question.
Je vous en prie. On est là pour ça, d'ailleurs.
Mais oui,
désolé, maintenant j'ai juste...
Après, qui a des jokers?
Mais du coup, s'il y a eu 400 ans d'esclavage, ça veut dire que là, tout le descriptif, justement, de ces étapes, ça a pris genre 300 ans.
Quasi.
Ok, d'accord.
Oui, oui. Parce qu'en fait, si tu veux... Alors, la tradition...
C'est le même roi, mais
Non. La tradition juive, ben, c'est la dynastie qui se poursuit. Ouais. Hein. La tradition juive, alors je ne sais pas sur quelle base exactement, mais en tout cas, délimite par tranche de 40 les périodes que Moïse a vécues. Donc les 40 premières années, ben, c'est l'Égypte et Madian. Les 40 suivantes, ce sera toute l'œuvre de libération, etc. Et puis les 40 dernières, ben, c'est la fin, tout simplement. Il meurt assez âgé, finalement, malgré tout. Bon, pourquoi tu t'es dit quoi ta question ? Parce que je suis en train de me garer.
Quand tu commences en disant, tu vois, le temps approchait.
Oui.
Et quand il commence le temps, quand il commence à donner des durs labeurs, etc., c'est 300 ans.
Ah oui, oui, tout à fait. Donc, si maintenant, sur l'échelle chronologique, on doit mettre tous ces événements bien en amont. Et donc, au fond, quand on commence à nous parler de Moïse ici, on nous parle déjà de la libération. C'est vraiment le temps est venu, tout comme dans Jean, on trouve l'heure est venue, hein, quand on parle du ministère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc il y a un timing dans l'histoire, en tout cas pour Dieu, que lui seul accorde finalement, mais lui sait qu'après X centaines d'années d'esclavage, c'est terminé. Et on va voir comment d'ailleurs, hein, dans la suite de ce passage. C'est assez incroyable.
Moi j'ai lu, hein, je ne sais pas penser, comme quoi c'était... Cette naissance et ce salut de Moïse des eaux et des eaux, c'était une façon imagée qu'on ne savait rien de l'enfance de Moïse et que ça venait d'une légende du roi Argon qui avait été sauvé des eaux. Je n'ai pas tout oublié. Il vient ce roi-là, je n'ai pas cherché.
Non plus.
Mais c'était quand même un cours, j'ai trouvé ça d'une salésienne qui faisait des cours par correspondance. Et donc, je n'ai pas eu tout le détail. J'ai eu des questions qu'elle posait, puisque je n'ai pas suivi le cours en question. Mais il y avait comme ça de temps en temps, il y a de temps en temps comme ça des interrogations. Et comme si, pour faire parler de la providence de Dieu... Hein, qui on a trouvé une manière plus agréable quoi pour
oui
mais que ce ne serait pas la réalité quoi on n'en sait rien. Alors, comment il a été sauvé
là où je vais t'accorder un point c'est c'est l'idée que on ne connaît pas grand chose de l'enfance de Moïse et pour cause. Puisqu'à 3 mois, il est à la cour impériale. Donc, il n'a pas d'histoire juive, lui, effectivement. Et les seuls textes qu'on a, c'est ceux d'Exode, c'est le discours d'Étienne, qui, lui, fait référence à l'Exode, justement, hein, et dans sa version septante, la version grecque de ce texte-là. Donc, on a quelques indications... de comment Moïse est arrivé, où il est né, n'empêche que si on ne savait rien de l'enfance, alors on doit aussi inventer que Aaron n'a pas existé, que tout ce qui suit n'a pas existé non plus. Alors attention, c'est là qu'il faut faire gaffe, si on veut rester strictement biblique, de quand même se dire, oui, il y a peut-être dans la tradition orale des choses enjolivées. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes, mais quand il est déclaré beau aux yeux de Dieu, oui. Beau devant Dieu... de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du physique, voilà, etc. Le grec semble en tout cas dire qu'il s'agissait d'un beau bébé. Effectivement, charmant, dit le texte grec. Hein. Agréable, etc. Donc on peut se dire, oui, peut-être qu'il était beau physiquement. Ajouter beau aux yeux de Dieu veut certainement un hébraïsme. Ça existe en hébreu. Ça veut dire très beau. Quand tu es beau aux yeux du divin, aux yeux du créateur, c'est que c'est vraiment parfait. Voilà, c'est vraiment le truc, le nec plein de gras.
J'avais une traduction
qui était
cher. Cher au lieu de beau.
Oui.
J'avais une traduction, ce qui est tout à fait différent.
Alors qu'en grec, c'est astéios, donc ça n'a rien à voir avec cher. Hein. Par contre, la traduction, pour rigoler maintenant un petit peu, la traduction juive va assez loin quand même, puisqu'on dit dans certaines traditions... qu'il était beau au point d'illuminer la pièce où il est né.
Waouh.
Comme Jésus dans la crèche, dans la mythologie. Voilà. Ou bien même, plus intéressant, qu'il est né déjà circoncis, le gars. Plus juif que juif, il n'y a pas. Donc, on peut s'amuser comme ça. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il aurait été élevé 3 mois seulement, c'est-à-dire juste le temps d'être allaité, et encore un peu après, mais
puisque la mère
bon, elle s'est dit qu'à 3 mois, on pourrait le faire en le cachant autrement, et pas chez soi.
Maligne.
Donc, Étienne, quand il dit ça, il se base, lui, sur l'Exode, tout simplement, et pas sur la tradition juive, heureusement pour nous, d'ailleurs, ce serait un petit peu plus concret. Et donc, on va continuer, parce que est-ce que le verset 20... Bon, ça suffit, hein. Donc, élevé 3 mois dans la maison de son père. Verset 21. On reprend le même verbe en grec, il fut exposé, hein, lorsqu'il fut exposé. Alors, ici, ça se concrétise assez bien, puisqu'en fait, nous savons, nous, qu'il n'est pas abandonné et que sa famille, sa mère en l'occurrence, n'a aucune intention de le laisser mourir. La preuve, c'est qu'elle confectionne, ça on le sait avec Exode 2, verset 4 et suivant, elle confectionne une sorte de petit bateau, on va dire ça comme ça, qui puisse le contenir. Vous savez qu'il y a des barques qui étaient faites en roseau du Nil, ben c'est exactement ça qu'elle utilise et ça flotte effectivement très très bien. Et elle le planque dans des roseaux. Comme ça, il n'est pas visible, il ne peut pas dériver avec le fleuve. Il est retenu par cela.
Oui, il sait que la princesse va arriver.
Alors, je ne sais pas ce qu'elle sait, mais
elle
en tout cas...
Elle a peut-être l'habitude de se distraire là.
On pourrait dire que finalement, la mère de Moïse exécute à moitié les ordres du pharaon. C'est-à-dire qu'elle les met bien à l'eau. Hein. Il est à l'eau, mais il n'est pas dans l'eau. OK. Donc le fameux « jetez-le au fleuve », dites aux femmes... aux sages-femmes, est à moitié réalisé dans cette histoire. Et on découvre, donc, dans la suite du verset, que la fille de Pharaon va l'élever, sous-entendu, l'adopte, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion de cela ?
Elle avait un cœur, déjà.
Okay. Son père, en tout cas.
Qui va avoir tout savoir des Égyptiens.
On suppose bien qu'elle sait
que c'est un enfant juif.
Oui, bah, c'est
probablement
un enfant caché. Hein. Ouais. Ça nous fait penser à la guerre, au nazisme. Hein. Un enfant caché d'origine juive, bon, bah, il est juif, hein, manifestement. Donc, elle craque pour ce nouveau-né, on va dire ça
parce
comme
qu'il
ça.
Est beau.
Oui, en plus il est beau.
Parce qu'il est beau.
Ouais, parce que s'il était moche, tordu, etc., peut-être qu'elle l'aurait pas pris.
La fille de Pharaon n'a jamais eu d'autre enfant,
si. Ça, on n'en sait rien, par contre.
L'histoire ne le dit pas.
On ne sait pas non plus si elle était mariée, pas mariée, etc. Tout ce qui est clair dans l'Exode, c'est qu'elle le fait, elle l'impose à la cour du roi. Et c'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ?
Que quand Dieu veut quelque chose, même les ennemis,
ouais.
Même ceux qui veulent du
mal,
ils les utilisent.
Dieu se joue totalement des puissants.
Ah oui, c'est dingue.
Il se fout du pouvoir de Pharaon, dictateur et oppresseur. Pire, il va faire en sorte qu'il soit élevé là, justement, à la cour impériale. Une sorte d'ironie, ça c'est clair,
oui,
à Dieu. Hein.
Oui. Oui, plus tard, il y aura Cyrus qui...
Exactement.
Il aurait pu flanquer une tripotée à sa fille et dire « Mais qu'est-ce que tu fais, la conconnerie ?»
Oui,
mais lui, heureusement, lui n'est pas au courant de la promesse.
Non.
Une chance pour Moïse et pour tous les autres. Donc, on va reprendre son nom. Il est donc sauvé des eaux. Hein. Mais il faut savoir qu'en hébreu, Maïm, les eaux, ça n'a pas quelque chose de très positif comme connotation. Être sauvé des eaux, c'est être sauvé de l'abîme. C'est être sauvé du lieu du mal. Là où le fameux Léviathan, vous rappelez de ces textes, sans doute, au plus profond des abîmes. La bête, elle vient de l'eau, vous vous rappelez, dans l'Apocalypse aussi. Donc, pour un hébraïsant, être sauvé des eaux, c'est être sauvé de la puissance du mal, finalement. Puissance de ce monde, hein, de ce monde-ci. Tout comme Jésus a été sauvé du massacre, n'est-ce pas ? Donc, n'oubliez pas qu'Étienne, dans sa logique, il donne des arguments pour la nouvelle voie, pour le judaïsme messianique. Et il dit au Sanhédrin ce qu'il est en train de leur dire, c'est vous avez fait avec Moïse ce que vous avez fait avec Jésus. C'est la même chose, hein, quelque part. Donc, comme Jésus a pu être épargné de ce fameux massacre à Bethléem.
Ah oui, oui.
Alors, ça vous va? Alors, on pourrait dire que c'est à ce moment-là, quand Moïse est sauvé des eaux, que commence véritablement l'œuvre de Dieu, la réalisation de la promesse. Quand cet enfant est recueilli par l'Égyptienne, c'est-à-dire par l'ennemi, élevé à la cour impériale, Dieu est en train de réaliser secrètement et de manière minuscule, humble, la réalisation de sa promesse. C'est au fond, on pourrait dire... Oui.
C'est une belle image de Christ. Hein.
Exactement.
Préfiguration de Christ.
Dans le plus grand secret. Ouais. Christ n'est pas reconnu par les siens, ni par sa famille, ni par son peuple, ni par les juges au dernier moment.
Quand Christ est sauvé de la mort, par la résurrection, il sauve le peuple.
Exactement. Et on va revoir ça dans quelques instants. Et donc, au fond, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Dieu place cet enfant dans la gueule du loup. On peut se demander pourquoi, mais on va avoir la réponse tout à l'heure. On pourrait dire en tout cas que le salut du monde, parce qu'il ne s'agit pas que du salut du clan de Jacob ici, le salut du monde entier sur les rails à ce moment précis de l'histoire est en train de se réaliser. Donc, vous vous rappelez, promesse à Abraham des centaines d'années auparavant, et enfin, le début de quelque chose qui ressemble à la réalisation. Voilà. Alors, maintenant, je vous disais, mais pourquoi faut-il que Moïse soit élevé à la cour impériale? Je ne sais pas si vous y avez réfléchi.
Pour avoir tout le savoir.
Exactement. Merci. C'est deux bons points ce soir.
Tu peux le redire, je n'ai pas entendu.
Je vais revenir.
Tu peux redire, Anne-Marie.
Tout le savoir et la sagesse.
Ok, donc effectivement, au verset suivant, On découvre que Moïse fut initié, bon c'est la tobe, hein, à toute la sagesse des Égyptiens. On pourrait alors se poser quand même quelques questions.
Et on dit en parole et en acte.
Parce que alors, quand il va se présenter devant Pharaon, il y a certainement des formules qu'il va employer. Il connaîtra un certain nombre de choses. Cas,
Mais ce qui est intéressant... Alors, intéressant, je ne sais pas si c'est le bon mot, finalement. Un certain nombre de commentateurs, notamment évangéliques, ce qui m'embête toujours un peu, appuient sur le côté « Ah, la science de l'Égypte, c'est la divination, c'est l'occultisme, etc. C'est l'idolâtrie, c'est... » Oui, mais loin de tout ça. Ça, c'est plutôt la prêtrise qui est concernée par ce truc-là. Lui, il est quoi? Ah oui, c'est ça que j'oubliais de... que je voulais vous faire dire tout à l'heure. Quand il est élevé à la cour impériale, il est quoi?
Il est prince d'Égypte,
et comme beaucoup de princes, à l'époque, et notamment dans les dynasties égyptiennes, tu dois étudier. Tu n'es pas prince pour te la couler douce, et d'ailleurs la plupart des princes étaient des généraux de l'armée. Donc on peut imaginer aussi que Moïse a eu une formation militaire. Voilà. Donc, alors, c'est quoi la sagesse égyptienne? Si on s'en tient aux documents archéologiques, historiques, etc., concernant tout cela, on découvre que la science égyptienne recouvrait un certain nombre de domaines. Primo, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire naturelle, la musique, la médecine, l'architecture, évidemment, hein. Ville, pyramide, vous imaginez bien que ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Donc, et qui sont les enseignants? Ce sont les prêtres. Donc la caste des prêtres, qui étaient les instruits, tout comme le Sanhédrin, hein, les instruits, eh ben c'est eux qui délivraient toutes ces sciences à l'élite, hein, pas au petit peuple égyptien, qui eux, c'est des serfs qui travaillent dans les champs, et voilà, terminus, hein. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant.
Il y a-t-il les prêtres?
Oui.
Oh, c'était en Égypte?
Oui, les prêtres en Égypte.
Il y a des prêtres en Égypte.
Ah, ben oui, des dynasties entières de prêtres. Ah, de dynastie en dynastie.
Ouais, ils ont beaucoup de...
Pour tous les cultes, notamment.
Tous les temples.
Oui, tous les temples, etc.
Ils ont des temples égyptiens.
Mais ils étaient très forts en médecine. Il ne faut pas oublier qu'on a retrouvé des crânes qui avaient été trépanés.
Oui, oui, tout
à fait. On était sûr que c'était trépané parce que c'était réparé.
Tout à fait, soigné.
Ressoudé, soigné. Quoi. Ouais, donc il y avait
Et la momification, pareil, hein, c'est quand même toute une science, tout un art qu'on ne connaissait pas, nous, spécialement. Hein, voilà.
Donc, en fait, ce Moïse qui connaît tout ça, hein, tu as dit l'astrologie, la science.
Certaines de ces sciences, sans doute.
Oui, ben donc, toutes, ça c'est pas pour rien qu'il soit là, parce que ça va le servir pour amener tout ce peuple dans le désert. Il va falloir qu'il voie dans les étoiles.
Il s'est quand même perdu.
Il s'est perdu.
C'est assez extraordinaire. C'est ça que je viens de.
Voilà, donc il faut connecter vos deux bons points.
Voilà.
C'est-à-dire que quelque part, il est instruit. Alors, imaginez, lui, fils d'Hébreu, c'est-à-dire voué à l'esclavage, devient membre de l'élite, instruit intellectuellement parlant de manière extraordinaire, ce qui n'est pas du tout la destinée d'un Hébreu, d'un Israélite à l'époque. Voilà, tout simplement. Donc on peut comprendre comment il va devenir chef, législateur et libérateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, parce que quand même, pour comprendre les commandements de Dieu, entre autres, je pense même au Sinaï, tout simplement, il fallait quand même une certaine... une certaine intelligence, quelque part, hein, pour faire tout cela.
Donc tu as dit chef, législateur et...
Et libérateur, hein. Je devrais peut-être le mettre dans l'ordre. Libérateur, chef et législateur.
Mais donc les prêtres, c'était plutôt des enseignants.
Des enseignants.
Parce que tu dis, il y avait des temples.
Beaucoup de temples.
Ils faisaient des rites quand même.
Bien sûr, oui, tout à fait. Il y avait toute une liturgie, toute une croyance.
Je suis petite nièce
d'Égyptien.
D'un égyptologue, Jean Capard.
Donc
j'ai eu la chance d'aller en Égypte en l'an 2000. Et donc, il y a énormément de temps, quoi, avec le sein des sœurs.
Exactement.
Et que la lumière rentrait dessus.
Alors que nous dit ce. Excusez-moi.
En plus de ce que vous avez dit, je pensais qu'il faut aussi penser que comme Dieu voulait lui envoyer au même juif pour qu'il s'introduise, Moïse avait besoin de savoir qu'est-ce que l'Égyptien croit. Mm-hmm. Et c'est pour qu'il puisse donc les expliquer combien, qui est ce Dieu. Parce que vous devez savoir que les Juifs ici ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu d'Abraham. C'est pourquoi quand il vient, il veut le dire, c'est Dieu qui m'a envoyé. Qui est ce Dieu? Alors il devrait juste savoir les dieux d'Égypte pour qu'ils puissent comparer et puissent les aider de comprendre le vrai Dieu. Et je pense que ça, c'est un point très pertinent, de façon que s'ils ne pourraient pas être instruits dans l'Égypte, ils ne pourraient pas savoir... de leur doctrine, de leur croyance dans des dieux qui ne sont pas le vrai Dieu.
Exactement. On pourrait presque dire que Moïse est un infiltré, si vous voulez. Oui, non, si on parle en termes de... Parce qu'en connaissant tout de l'Égypte, en ayant dans une position idéale pour ça, il va pouvoir effectivement entreprendre cette libération avec l'aide de Dieu, bien entendu. Hein. On le verra d'ailleurs plus tard, hein, dans la suite...
Du passé. Il est toujours... Dernière question,
vas-y.
Les prêtres en question, c'était des prêtres juifs.
Non,
égyptiens. Et qui faisaient des rites dans les temps, des rites juifs. Dans le sein des saints.
Oui, mais dans le temps égyptien, il y avait
le sein des saints. Dans tous les temples du Proche-Orient, y compris en Égypte. Tu as toujours un lieu public, si tu veux, et puis un lieu plus privé pour le réserver aux prêtres. Et souvent, dans ces lieux-là, encore, comme dans le Saint des Saints du Temple à Jérusalem, un lieu réservé à un seul prêtre.
Il y en a un qui a copié sur l'autre, non?
Peu importe. Si quelqu'un a copié, ce sont les Juifs.
Ben oui, probablement. Ben oui. Non, mais tu sais bien qu'il y a le dieu Ra, le dieu soleil.
Oui, ça, oui, oui.
Et donc, ils avaient d'autres dieux. Quoi.
Voilà.
Ah, mais Yves.
C'est comme le fils d'Israël, reconnu par une princesse juive.
Égyptienne.
Puis éduqué, puis il est formé par les prêtres. Il est drôlement pistonné pour un bébé.
Qui devait être mort.
Qui devait être, ben oui, qui devait être jeté à l'eau. Qui était... Donc, c'est une fameuse. Moi, c'est des choses qui m'interpellent, franchement. Ah, oui. Parce que c'est. Comment est-ce que je vais dire? Il parle sur le bébé.
Dieu à l'œuvre.
Et que.
Voilà. Oui, c'est Dieu à l'œuvre.
Tu vois? Donc, c'est vraiment quelque chose qui. Comme on l'a dit, j'ai dit tout à l'heure, il a un fameux piston derrière lui qui lui permet de, d'être aidé, d'ouvrir des portes, d'être.
Choisi par Dieu.
J'ai envie déjà de précéder la leçon de la semaine prochaine.
Vas-y.
C'est pas suffisant.
Non.
Parce qu'il va être chassé.
Oui.
Oui, c'est ça le truc.
Pour avoir l'appel de Dieu.
Exactement.
Donc,
l'instruction ne suffit pas.
Non.
Exact. Et ça, il n'a pas la vocation.
Je vais trop vite, mais 40 ans,
oui.
40 ans, Dieu prend son temps.
Tout à fait.
Dieu veut faire quelque chose, il prend son temps aussi.
Mais surtout avec l'humain, parce que l'humain est quand même.
Oui,
oui, exactement. Alors, la suite du verset nous dit encore autre chose. Hein.
Oui, là, c'est un surpris.
Se distingua par ses paroles. Alors, je peux commencer dans la version.
Parole.
Puissant en parole et en action, hein, en acte.
Lui qui bégaye ou je ne sais pas quoi.
Ben oui.
Alors justement, je vous avais posé la question, est-ce qu'il y a une contradiction avec le fait qu'on découvre dans Exode 4, que je ne sais pas bien parler, les gars, on suppose que c'est un bégayement, parce que l'hébreu n'a pas d'adjectif pour ça. En fait, l'hébreu dit « pesant de bouche et pesant de langue ». Donc c'est comme si la bouche... Hein, donc, il y a un humain pareil. Hein. Alors, d'abord, on pourrait se poser une question. Est-ce qu'être bègue empêche l'éloquence? Bon, je pense que non.
Parce qu'il y en a qui
Est-ce qu'il n'y avait
pas un pasteur qui bégayait et quand il faisait sa prédication, il ne bégayait pas du tout?
Oui, il y a des gens qui chantent.
Oui, qui jouent au théâtre.
Si tu ne sais pas qu'il bégaye, et quand il chante, il n'y a rien non plus.
C'est marrant, ça.
Donc, il y a, comment se dire, une cessation dans le bégayement, si tu veux. Ils parviennent à aller au-delà du bégayement. Mais celui qui reste tout le temps en bégayé, est-ce qu'il peut vraiment accomplir? Moi, je connais un directeur de l'école d'architecture, il avait un élève formidable, mais qui était bègue, mais un bégayement épouvantable. Et il a demandé au jury, finalement, avant d'avoir le diplôme, si cet élève-là pouvait être interrogé de dos. Parce que de dos,
Ça marchait mieux.
Oui. Donc, tu vois, on l'avait dit non, il aurait bégayé, il ne serait peut-être pas arrivé à avoir son diplôme, mais donc il a trouvé
un subterfuge,
une manière de pallier à cette
défaut. On aurait pu imaginer que le bégayement de Moïse est arrivé sur le tard.
Mais oui, c'est ça que j'étais en train de penser.
Pourquoi pas ?
Il a été perturbé.
Mais ce n'est pas ce que le texte de l'Exode nous dit.
Non.
Moi, je pense.
Donc, on n'a même pas d'excuse.
Enfin, quand tu le dis comme ça, c'est un homme qui parle et agit avec puissance. C'est-à-dire que si je te dis lève-toi, tu te lèves. Même si je te dis lève-toi, tu m'écoutes parce que je suis puissant. Je parle avec
autorité et en puissance.
Et des œuvres, il faisait des œuvres puissantes. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Oui, et donc, cette distinction qu'on nous cite ici, pas dans le discours d'Étienne, elle fait mention de quelles paroles et quelles puissances, quelles œuvres, finalement.
Quand il parle d'un part de Dieu, peut-être.
Non, on parle
du temps où il était égyptien.
Du temps comme prince d'Égypte.
Oui.
Donc nécessairement, il y a une partie de vrai dans ce que tu dis. La puissance vient de son positionnement à ce moment-là, plutôt que de sa capacité à parler facilement, de manière fluide, etc. Donc, on peut mieux comprendre qu'il n'y a pas de contradiction par conséquent ici.
Oui, mais on dit que c'est Aaron aussi, à ce moment-là, dans Exode.
je suis d'accord avec toi, mais revenons bien dans l'histoire.
Oui, et puis aussi...
Non, mais attends, je vais répondre. Revenons bien dans le fait. D'où vient l'idée? D'où vient? Où est l'information qui nous dit que parce qu'il était bègue, il ne pouvait pas aller en Égypte? Il n'aurait pas pu faire ce travail. Qui dit ça?
C'est lui-même.
Non, c'est lui-même qui le dit. Mm-hmm. C'est une excuse. D'ailleurs, voilà. Dieu en a marre au bout d'un moment.
Oui.
Il dit à Dieu, mais non, ça, je ne peux pas. Ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas parler bien. Et chaque fois, Dieu trouve la parade jusqu'à lui dire, bon, maintenant, ça suffit.
Ça suffit, hein,
puisque c'est comme ça, ce sera Aaron qui parlera pour toi. Et revenez bien sur le texte, tu seras Dieu pour Aaron.
Ah oui.
Et tu seras Dieu pour Pharaon. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc le gars dit, moi, je me taire. Moi, je dis rien à personne. Je m'occupe de rien.
Oui,
et puis on lui dit, mais mon Dieu, maintenant, c'est toi qui es Dieu. Tu es mon représentant. Là. Et ton frère va parler à ta place, parce que comme tu es trop puissant, il parlera pour toi.
Et il y a des passages où on voit qu'il ne prend même pas le temps de donner la parole à Aaron, il parle lui-même.
Oui, tout à fait. Oui, donc c'est bien là qu'on voit qu'il y a une part chez Moïse de... Je me défile devant la vocation, devant l'appel de Dieu,
et
j'invente que j'ai un vrai handicap.
Oui, voilà.
Mais en fait, comme tu le dis très bien, si on relit les textes de l'Ancien Testament, on découvre que de temps en temps, Moïse se lâche, quoi. Moïse dit, fait des choses, et même vis-à-vis du peuple plus tard. Il n'a pas toujours besoin d'Aaron pour s'exprimer. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand même. Alors... J'en reviens à notre verset.
Oui, moi je voulais dire, Étienne, quand il parle de Moïse, il veut montrer que Moïse est le précurseur de Jésus.
Exactement.
Et donc il était puissant en parole et en œuvre, et Jésus, on dit aussi qu'il
est puissant. Exactement. On est toujours avec cet arrière-plan dans le discours de je vous démontre, si vous écoutez bien, que. C'est comme Jésus, quoi. Comme le Jésus que vous avez crucifié, c'est la même chose. Et d'ailleurs, à un moment du discours, il va le dire. Vous rejetez Moïse comme vous avez rejeté Jésus. Vous avez rejeté Moïse comme vous avez rejeté Jésus. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec cette idée de science, hein, de tout ce qu'on vient de se dire là sur ce verset 22, c'est que Dieu a équipé, finalement... Donc c'est planifié pour Dieu, hein, dans sa promesse, à équiper un homme chez son ennemi pour libérer son peuple. Bon, moi, je trouve ça miraculeux et incroyable. Tout comme on a l'histoire de vous rappeler de la reine, oh, je ne trouve plus son nom maintenant, avec l'histoire de Mardoché et compagnie, là,
La reine Rachel.
Non. Celle qui fera libérer tout le monde.
Esther.
On a des figures comme ça, de gens qui ont été placés à un moment de l'histoire pour sauver le peuple, réellement. Quoi. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais comme vous êtes très participatif...
On n'aura jamais fait de l'histoire.
Non, en tout cas, on va voir. Donc, verset 23... Alors, je vous rappelle que l'histoire des 40 ans, c'est pas vraiment les textes de l'Ancien Testament, c'est plutôt la tradition juive. Parce que le texte de l'Exode dit seulement « quand Moïse eut grandi ». Voilà. Donc, il n'y a pas de question de 40 ans nécessairement. Et à ce moment-là, donc je retourne dans le texte, verset 23, quand il eut 40 ans, accompli, l'idée lui vint de se rendre parmi les frères, ses frères, les Israélites.
Tout à coup.
Alors, mes amis, la question fondamentale, je crois que je vous l'ai posée dans la liste. Comment sait-il que ce sont ses frères?
Voilà.
Comment sait-il qu'il est hébreu?
Mais sa mère et sa sœur étaient quand même... en contact avec lui, au début, en tout cas.
Mais en tout cas, très longtemps. Admettons qu'elle ait allaité un an.
Il était bébé, là.
Un an et demi.
Mais il est circoncis.
Alors, merci.
Qu'est-ce que t'as dit ? Il est circoncis. Okay. Il a bien
ça. Ça vaut quand même la peine. Alors, il faut savoir que la circoncision se pratiquait très peu en Égypte. Donc, ce n'est pas une coutume en Égypte du tout. Et quand elle était pratiquée, on incisait juste... un bord du prépuce pour pouvoir décaloter plus facilement le gland. C'est tout. Donc, quelqu'un qui est complètement circoncis ne peut être que du clan des ennemis, de ceux qu'on oppresse, du clan de l'esclavage. Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre ça. Il n'a pas oublié son peuple parce qu'il se sait lui-même différent. Peut-être même de couleur de peau est-il différent de ces autres princes égyptiens, hein, de la cour impériale, qui ont quand même une peau très basanée, etc. Donc, vous savez que chez les Juifs, comme chez les Kabyles, on trouve toutes les couleurs. Hein. Des blonds, des yeux bleus, des yeux verts, des peaux foncées, des peaux pas foncées, etc. Mais donc, revenons à nos moutons. Il sait qu'il est hébreu à cause de la marque du signe de l'Alliance, mes amis. C'est Genèse 17, 12. Hein. La circoncision, c'est Genèse 17, 12. Le signe de l'Alliance confié à Abraham. Et chaque génération doit le faire pour chacun des fils mâles qui naît, etc., etc. À perpétuité, dit le texte.
Donc on l'a circoncis qu'il était bébé.
Huitième jour, exactement, la première semaine.
C'est quand même bizarre que donc, Pharaon et d'autres n'ont pas vu ça. Oui, ah, en général, on voit quand même...
Moi, c'est ça aussi qui m'a vu.
Oui, à mes yeux, en tout cas, la princesse le savait.
Oui, bah oui, ça, c'est sûr.
D'ailleurs... Comment sauver un enfant,
bah oui,
Et ne pas lui changer les fesses.
C'est peut-être pas la princesse qui...
Oui, mais enfin bon, l'air de rien, tout le monde joue le jeu. Oui. Et c'est là qu'on peut aussi peut-être, si vous voulez, évoquer la notion d'aveuglement. Car Dieu l'utilise souvent dans l'histoire d'Israël. Aveugler tel roi, même ses propres rois, Saül et compagnie. Donc, on se rend bien compte que quand Dieu est maître de l'histoire, maître du temps et celui qui est l'auteur de la promesse, il fait ce qu'il veut quand il faut, au bon moment, pour chaque participant, chaque acteur de cette histoire du salut, quoi. Et donc Pharaon est acteur, la princesse est actrice de ce fameux salut, de cette fameuse promesse aussi. Mais alors ce qui est intéressant, c'est l'expression... Alors, je me colle plus au grec. Il monta au cœur de visiter ses frères. Il faut savoir que ça, si en araméen, si vous voulez, ce qui se cache derrière le grec, c'est un hébraïsme aussi. Le cœur, c'est quoi? C'est
les sentiments, non?
Le siège de la volonté et de l'intelligence. Pas du tout des sentiments. Ah, oui. Le cœur, pour les juifs, c'est pas les émotions.
Donc,
le cœur, c'est volonté et intelligence. Et donc, derrière l'hébraïsme se cache l'idée que il lui vint l'idée, c'est une forme d'inspiration. C'est quelque chose de nouveau que Dieu maîtrise dans la vie de Moïse. C'est pas encore la vocation que tu as évoquée tout à l'heure, qui sera un peu plus tard dans notre histoire, mais Dieu l'inspire, Dieu révèle à son cœur le besoin. Mais alors, attention, quand nous, on lit en français, et c'est dramatique d'ailleurs, je trouve, qu'il... Oh, il projette d'aller faire une petite visite touristique dans le grand cheptel des esclaves hébreux. Parce qu'il est quand même un peu d'origine hébraïque, alors il se dit, bon, on va quand même faire un petit tour, moi le prince. Mais c'est pas ça que dit le texte grec. Loin de là. Visiter, le verbe qui est utilisé, c'est episkepsastai, c'est-à-dire, ce qui a donné d'ailleurs plus tard le mot épiscope, hein, surveillant. Eh bien, il fait une visite qui est de l'ordre de la veille, de la surveillance, de l'inspection, ou l'équivalent, si vous voulez, en hébreu, connotation d'aide. Donc derrière l'idée, c'est une visite préméditée, programmée, dans le but de prendre soin, pas de surveiller au sens mauvais du terme, de veiller au devenir du peuple. Au devenir. Et là, ça éclaire quand même vachement le texte. Parce que je trouve qu'alors, il a quand même un début de conscience qu'il fait partie de la promesse, quelque part, et que, et d'ailleurs, on va le voir au verset 25, hein, sa conscience, c'est quoi? Mais moi, je suis le libérateur. Parce que, bon, je rêve pas, moi, je lis dans le texte. Hein. Donc, verset 25, il pensait faire comprendre à ses frères que Dieu, par sa main, leur apportait le salut.
Ça peut pas être...
Oui, ça c'est pas dans l'Exode, mais ça peut pas être plus clair en tout cas. Donc, alors revenons parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Il y a donc derrière cette visite une intention qui est de repérer où en est le peuple et comment peut-être arriver à le libérer. Donc lui, il a déjà cette idée-là dans sa tête, sauf qu'il s'y prend de manière particulière, comme on va le voir, en tout cas pas à la Jésus, mais à la Moïse, nécessairement. Et il se pointe, donc, verset 24, si je me souviens bien, voyant l'un d'eux mis à mal, donc un de ses frères, il prit sa défense et pour venger ce frère maltraité, il frappa l'Égyptien. Alors, on pourrait d'abord se dire, l'un d'eux, c'est évidemment un Israélite, l'oppresseur, l'agresseur, c'est un Égyptien, et Étienne présente alors le meurtre, parce que utilisons quand même le mot, commis par Moïse sous un éclairage très positif. D'abord, il s'agit de prendre la défense. Puis, il insiste sur l'idée de vengeance. Vengeance pour l'opprimé, dit le texte. Alors, le grec sous-entend quand même de rendre l'appareil. Il y a quelque chose derrière le mot vengeance. Hein. Et que fait-il? Il frappe l'Égyptien. Le texte est très cool.
Oui, c'est
le tue, bon, c'est pas juste une baffe, quoi. Le gars, si vous relisez Exode, si vous relisez complètement Exode, vous allez voir qu'il a prémédité son acte. Avant de frapper, il regarde, dit le texte, partout qu'il n'y ait pas de garde, pas d'Égyptien, etc. Et puis lui flanque une raclée monumentale et il le tue volontairement. Donc là, il n'y a pas d'équivoque dans Exode. Hein. Il le met à mort, tout simplement. Mm-hmm. Et donc, Étienne reste assez cool, quelque part. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Étienne, qui ne parle même pas de la mort de l'Égyptien ici. Hein. Vous regardez bien le texte. Hein. Mm-hmm. C'est juste qu'il lui a flanqué une claque. Quoi. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ben, pas l'Égyptien,
mais... Pourquoi le fait-il? Parce que Moïse est celui qui apporte le salut. Et il ne peut pas l'accuser de meurtrier. Mm-hmm. Parce que le vrai rôle de Moïse, ce n'était pas celui-là. Le vrai rôle de Moïse, c'est d'être le libérateur du peuple, le chef, le guide suprême, etc. La préfiguration de Jésus, pour reprendre... Je pense que c'est toi, Bernard, qui l'a dit tout à l'heure. Et donc, on trouve ça au verset 25. On trouve la même idée de chef et libérateur au verset 35 qu'on n'a pas étudié. Et il opère des signes et des prodiges, verset 36. Il est situé entre Dieu et les hommes, au verset 38. Et il rencontre l'opposition d'Israël, verset 26 à 28. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Plus clair que ça, je pense que ça n'existe pas non plus. Donc, oui, Étienne... prend tous les attributs qui concernaient Jésus. Et c'est pour ça qu'il transforme un peu l'histoire en la positivant. Finalement, le meurtre n'est jamais qu'un détail qui ouvre encore une fois au salut. C'est drôle comme Dieu agit parfois avec les hommes. Et puis donc, au verset 25, ben on découvre que Moïse est assez déçu finalement. Hein. Parce qu'après cette altercation avec ses frères,
ils ne le reconnaissent pas.
Non, ils ne le reconnaissent pas, quoi.
Ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas.
C'est ce que dit le texte très clairement. Donc, les Juifs, là-bas...
Alors, Est-ce qu'ils savent qu'il y a Juif, entre parenthèses?
En tout cas, je pense...
Il est prince quand il va là.
Oui, oui, bien sûr, il a les attributs de son rang. Mais en même temps, il a pris la défense d'un homme qui était, lui, hébreu. Donc, on pourrait dire que les témoins, puisqu'il y en a, on le sait dans la suite de l'histoire, les témoins qui sont hébreux, israélites, ben ils savent qu'il n'a pas agi contre eux. Au contraire. Mais il est quand même incompris. Donc, un peu comme le salut de Jésus, totalement incompris aussi. Hein. Voilà. Et donc, au verset... Donc, là, j'ai peut-être devancé le verset 26, mais en grec... ici dans la teub, on dit le jour suivant, on le vit. Mais en fait, en grec, c'est il apparut. Comme s'il n'était pas là il y a deux secondes, puis tout d'un coup, il est là. Hein, il apparut, ofté en grec, soudainement, sous-entendu, un peu allusion de nouveau, peut-être à la résurrection, hein, aux apparitions de Jésus, voilà, etc. Mais en tout cas, il s'insère dans une altercation entre deux hommes. Et quel est son but ? Dit le texte, parce que c'est pas moi qui l'invente. Hein.
Rétablir la paix.
Rétablir la paix. Donc, oui. Alors, j'ai pas eu le temps de creuser très fort. Ça, c'est les derniers, la dernière heure où je travaillais en vous attendant. À partir de là, hein, je ne mens pas, très humblement. Mais je veux dire, on se rend compte qu'il y a au moins deux missions pour Moïse. Être le libérateur d'un peuple, mais aussi pacifier les rapports à l'intérieur du peuple. Car il y a déjà des clanifications, il y a déjà des problématiques. Il n'y a jamais que 12 tribus, vous le savez. Donc les descendants qui ne s'appellent pas encore tribus, mais les descendants de chaque patriarche, fils de Jacob, revendiquent un peu la part de couverture. Donc voilà. Donc lui, pour l'instant, comme il est plutôt côté prince égyptien, ben, les deux Hébreux qui se bataillaient, lui dit « Fous-nous la paix
hein. !»«
Qui t'a établi ?» Alors, c'est quand même le prince. Hein. « Qui t'a établi chef et juge ?» Et ça ne vous fait pas penser aussi à certaines choses.
Mais est-ce que les Juifs ne savaient pas, eux, que Moïse était...
Peut-être pas.
Peut-être pas.
Moïse en a conscience, mais je ne pense pas que les Juifs savent qu'il l'a vu. Parce que, comme vous l'avez, je ne sais plus si c'est Bernard tout à l'heure, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, sa vocation n'est pas encore intervenue. Il n'est pas encore au point d'aller voir les autres et leur dire « Je suis juif et j'ai le même Dieu que vous et vous devez revenir à Dieu. » Donc maintenant, on va sortir tous ensemble. Ce n'est pas encore le moment. Donc à mon avis, les Hébreux qui sont là se disent « Bon, ce gars a pris notre défense, mais méfie, comme on dit dans le Sud, attention, pas up. »
Mais normalement, les princes ne devaient pas prendre en plus la défense.
Non, ce n'était pas son rôle. Non, il y avait des contre-maîtres.
Après, quand ils jouaient dans...
Oui, en tout cas, ça ne plaît pas, manifestement, à qui ? Aux Juifs, ça ne plaît pas.
Ils
l'accusent.
Et ça, c'est difficile de comprendre, parce qu'il y a un Égyptien qui prend leur défense, qui en tue même un, et on lui dit
« Mêle-toi de tes affaires. »
C'est incompréhensible. En plus, ils auraient dû voir quelqu'un qui prenait leur cause, et non.
Non,
il ne
faut pas
C'est l'aveuglement. Quand on est aveuglé, et ça fait penser à l'aveuglement du péché, on ne comprend pas quoi. Tous les gens qui ne répondent pas à Jésus, ce sont des gens qui sont aveuglés, qui ne comprennent pas que Jésus est venu libérer.
Il faut du temps.
C'est la même chose.
En tout cas, il y a beaucoup de ponts à faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ce texte était trop riche pour faire toute la deuxième partie du discours. Alors, juste un petit détail, mais cette fameuse question « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est de nouveau très hébraïque comme formule. C'est-à-dire, quoi toi et moi. C'est ça que dit l'hébreu, en gros. Oui. De quoi te mêles-tu, finalement ? Alors, c'est quand même gonflé de la part des esclaves de dire ça à l'Égyptien. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez fait le rapport, mais dans Luc 12, au verset 14, Jésus s'exprime. Alors, il s'agit de... Bon, je lis le morceau. « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Bon, ceci dit, il est le juge.
Oui.
Le vrai, le bon, etc. Ok. Donc, on va sauter un petit peu, si vous voulez. Non pas que je veuille absolument finir, mais c'est bête de ne pas finir, d'autant que je n'ai pas assez préparé, donc je ne vais pas me cacher les choses. Verset 28, qui dit...
Tu me tues comme tu as tué
l'Égyptien. Le verbe grec est très fort. Ouais. Veux-tu me supprimer tuer, tout simplement. Alors, c'est ça qui me fait dire que...
C'est l'arrogance.
Oui, c'est ça qui me fait dire que les Juifs sont dans le rejet. Et c'est ce qu'Étienne est en train de dire au Sanhédrin. Dès que vous avez un chef, vous le rejetez. Vous l'abandonnez, vous le tuez, vous l'humiliez, etc., etc. Vous voulez des chefs, mais en fait, dès que vous en avez un, vous le mettez à la porte. Quand vous le tuez, pas tout simplement. Donc, au fond, on se rend compte que ce meurtre est connu. il y a eu des témoins, puisque cet Égyptien l'accuse, d'accord ? Alors, c'est comme si je disais, le meurtre...
Le juif l'accuse.
Oui, le juif l'accuse, pardon. Et le meurtre ferait la une des nouvelles, hein, chez les Hébreux.
Celui qui a été, je veux dire, le premier là, qu'il a délivré d'Égyptien, ben, il a dû aller dire, dit, il y a le prince machin là, qui est venu... Ouais. Tuer le... Bon, donc ça a dû faire un boule de neige, hein. L'information est passée. Hein.
Donc, c'est clair.
D'autant plus que c'est justement un prince égyptien, qu'ils ne comprennent peut-être pas pourquoi, mais ils le rejettent quand même.
En tout cas, il semble que pour eux, prendre leur défense, c'est bien, se mêler de leurs affaires, c'est moins bien. Comme le dit Moïse, comme le dit Étienne ici, ce qu'ils cherchent, c'est à rétablir la paix. Au moins qu'entre frères, on soit en paix, qu'on ne soit pas comme Caïn et Abel, etc., etc. Donc il y avait quelque chose d'assez noble dans la démarche de Moïse. Alors, on termine avec le verset 29. Alors, je vous avais posé la question, ben, pourquoi s'enfuit-il finalement ? Il est quand même prince d'Égypte. Hein ?
Oui, il aurait pu...
Ah oui, mais là, il est dans une mauvaise position.
Hein. Oui.
C'est un prince que tu es.
Non, dans les autres, ils le disent que...
Il a tué
le roi veut le tuer.
Oui.
Pour ça.
Donc, verset 29.
Quand le roi l'apprend.
Oui, oui. Verset 29. Parce que Anne-Catherine, elle fait cette voix. Verset 29 nous précise qu'il s'enfuit dans le pays de Madian, qui est bien plus au nord, au pied du Sinaï, si vous voulez, grosso modo. Alors, d'abord, il y a, je pense, plusieurs causes à cette fuite. Il y a peut-être la crainte, effectivement, que cela parvienne aux oreilles du pharaon, puisque si entre Hébreux on se le dit, n'importe quel contremaître peut l'entendre et ça peut remonter assez vite. Ouais. Alors, ok, ceci dit, il est quand même prince d'Égypte. Hein. Donc, à mon avis, les princes faisaient un peu n'importe quoi, ce qu'ils voulaient quand ça leur chantait. Mais de là à tuer un Égyptien, peut-être une petite chose de trop, quoi. Et puis la deuxième raison, je pense, c'est le rejet des siens. C'est qu'il se rend compte que ses frères ne le comprennent pas du tout. Car quand même il veut rétablir la paix entre eux, on l'envoie à la gare. Et donc je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a la peur que ça remonte trop, que ça fasse des vagues, et que peut-être on l'emprisonne, on le bannisse, etc. Parce qu'on n'allait pas le tuer en tant que prince. Par contre, le rejet des siens doit lui faire très très mal. Parce que monsieur... c'était autoproclamé libérateur, voyez. Or, Dieu n'a pas encore décidé, Dieu ne lui a pas encore intimé l'ordre de le faire. Donc, il doit faire profil bas. Et c'est la raison des 40 ans qu'il va passer dans le désert, lui. C'est l'école de l'humilité, de ne pas croire que parce qu'il est instruit, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a une couronne sur la tête, il peut libérer son peuple. Ben non. À l'école de Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Et je dis donc que cette fuite est aussi dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. La fuite est nécessaire pour la réalisation de la vraie promesse, par conséquent. Alors, y a, je sais pas si vous connaissez cette phrase que j'aime bien, en ce qui concerne l'action de Dieu, qui dit « Dieu fait des lignes droites avec des lignes courbes ». C'est très intéressant, parce qu'effectivement, la solution pour Dieu serait de dire « Ok, Moïse, je confirme ta vocation. Tu veux libérer le peuple, fais-le tout de suite. » Mais Dieu ne fait pas ça, pour des tas de bonnes raisons qu'on découvrira plus tard, d'ailleurs, dans la suite du discours d'Étienne. Et il préfère l'envoyer à l'école du désert. C'est là qu'on rencontre vraiment Dieu. Non ? Moi, il me semble que oui. Quand on est face à soi-même. Et là, dans le désert, non seulement il va descendre de son piédestal de prince, parce que là, il va se retrouver berger de moutons, tout simplement, travaillant pour
un autre,
et qui deviendra son beau-père, en l'occurrence. Mais en attendant, il doit trimer. Il doit trimer jusqu'au moment où Dieu l'interpellera. On en reparlera plus tard. Et on nous dit, alors, c'est assez rigolo ce raccourci, De la fin du verset 29,
il
y a eu les deux fils.
D'où ça vient ?
Là, il n'y a pas de libération en jeu. On a juste à éduquer deux gamins. Voilà. On va revenir un peu à l'humilité, au travail terre à terre de l'homme. Survivre et éduquer sa progéniture. Parce que jusque-là, il faut quand même le dire, je vais le dire de cette manière, Moïse a eu le cul dans le beurre. Donc, il n'a jamais, à part l'école, évidemment, et sa faible formation militaire, n'a jamais vraiment eu beaucoup de soucis.
Non,
voilà. En tout cas, s'il en a, c'est les soucis du pharaon, mais ce n'était pas les siens. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire, cette école du désert, pour qu'on en arrive à la partie suivante du discours, hein, qu'on n'a pas pu étudier ce soir, mais qui va nous éclairer sans doute encore. Voilà, je vous laisse un petit temps de répit. Non, sans blaguer. J'aimerais bien avoir votre retour, parce que je suis un peu sur ma faim quand même par rapport au fait que je n'ai pas pu préparer la toute fin, les derniers versets, comme j'aurais voulu.
Un autre lien que je vois aussi sur un des versets qu'on vient de lire maintenant. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussant en disant qu'il t'a établi chef et juge. Ça me fait penser au démoniaque libéré. Et tous les pourceaux vont se noyer dans la mer. Et les villageois arrivent et disent « Attends, hein, tu es un mauvais présage pour nous. » Jésus a été rejeté aussi. Hein. Il y a énormément de parallèles dans cette histoire.
Oui, beaucoup, beaucoup.
C'est pour ça qu'on dit que Moïse est une préfigure de Christ. Hein.
En tout cas, je trouve Étienne très savant, très éloquent, comme je vous l'avais déjà dit auparavant, parce que quand même, de mémoire, sans notes, sans la Torah devant lui, il dit les choses qu'il sait et qu'il vit.
Il vit
avec ses tripes complètement, tout en étant très astucieux au niveau de l'argumentaire, puisque lui, il sait ce qu'il essaye de démontrer au Sanhédrin, et les autres font un peu semblant de ne pas comprendre, à mon avis, tu vois, jusqu'à ce qu'il s'énerve à la fin, on verra ça. Mais donc jusque-là, tout le monde fait profil bas, parce qu'on ne veut pas laisser à Étienne l'idée qu'il est bien compris. Et donc sa défense fait mouche, mais non, on va faire semblant tout ça. Ça ne nous touche pas du tout. On ne voit pas ce qu'il veut dire avec Moïse et toutes ces histoires. Mais voilà. Donc.
Et on voit bien que. Comment, il fait voir le péché, quoi. Aussi bien de Moïse que.
Oui.
Que des Hébreux qui ne veulent rien entendre.
Moi,
et que Dieu est libérateur de tout ce qui est oppression, des structures. Moi, ça
c'est ton
penser.
Troisième bon point ce soir.
Je
trouve que la Bible parle c'est toujours parce... en vérité. Elle ne cache
c'est parce
rien.
Que ça m'a fait penser à ça parce que je, avec Fondatio, on fait l'audate aussi, hein, qui est l'encyclique du pape, et que j'avais déjà vu ça moi quand j'étais à Bruxelles avec la doctrine sociale de l'Église et tout. Toutes les oppressions, déjà, toutes les structures oppressantes. Et donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, la libération de tout ce qui est oppression. C'est pas, on ne voit pas encore la libération du péché, mais on voit la libération des structures mauvaises. Quoi,
en tout cas, on peut faire un parallèle, et je crois que tu as raison là-dessus, entre la libération de la servitude d'Égypte et la servitude du péché. Donc, comme Moïse est le premier, si tu veux, prophète, Jésus étant un second, Moïse étant la préfiguration de Jésus, en tout cas, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, c'est assez clair, on peut se dire qu'on peut faire un parallèle entre les deux. La servitude, l'oppression, parce que le péché est une oppression. Moi, je disais à mes étudiants, dans le passé, le péché est une maladie mortelle. Et il faut l'antidote. Sans l'antidote, on finit par en crever. Parce que ce n'est pas récupérable humainement parlant. Donc voilà, je pense que tout ça est en jeu derrière les textes bibliques. C'est très intéressant. En même temps, j'apprécie beaucoup le fait que la Bible n'enlumine pas, n'enjolive pas les situations, oubliant les péchés des patriarches. Dieu sait s'il y en a, les péchés des rois et de la royauté, parfois les péchés des prophètes, hein, je pense à Jonas, qui dit à Dieu, fourte, moi j'y vais pas.
Ça c'est quand même fort étonnant. Tout seul. Fort étonnant, il n'y a rien de caché. Ça j'ai toujours été...
Alors, si tu compares ça à d'autres livres saints, il y a quand même une sacrée dimension humaine dans la Bible. où les choses sont dites, même en hébreu, crûment, hein, beaucoup plus que dans nos traductions. Parce que là, on ne tourne pas en rond. Hein. Un péché, c'est un péché. Quand la Bible parle de ne pas se prostituer, elle dit « tu ne putasseras pas ». Ça paraît très clair. Ça, c'est l'hébreu. Mais nous, évidemment, tu ne joueras pas à la pathéticienne. À la péripatéticienne. Oui, oui, c'est pas la même chose. Hein. Même pas temps, dit de la même manière.
Il y en a qui sont envoyés dans le désert avec toutes leurs expériences de vie, et au lieu de mûrir et de répondre à la vocation, c'est l'inverse. Ben oui. Ça, c'est... Donc, enfin, ça pose question, ça. Hein. Mmh. Désert et...
Moi, j'avoue un seul instant que si je me mets à la place de Moïse, je fuis en Madian, j'y trime 40 ans, j'ai du mal à me dire « Oui, Seigneur, je vais dire oui. Hein. » D'abord, j'ai presque 80 piges. Tu m'envoies faire un travail que je voulais faire il y a 40 ans.
Ouais, j'étais prêt à ce moment-là.
J'étais prêt à ce moment-là, maintenant je ne suis pas prêt. D'abord, j'ai une famille, donc tu vois un peu, me mets à sa place et me dis « Ça ne devait pas être simple de dire oui, finalement. » Par contre, l'extraordinaire, c'est Abraham, qui lui, mais sans hésiter, accepte une mission incroyable.
Il est aussi appelé le père des croyants, pardon.
Vous ne voyez pas aussi que c'était une œuvre que Dieu seul peut faire. Alors, c'était une œuvre un peu, bon, disons, impossible pour Moïse. Mm-hmm. C'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Alors, je comprends que Moïse était un peu, voilà, c'est pas pour moi ça.
Tout à fait.
Oui, c'est grand. Peut récupérer.
Oui, oui. Et dans la réalisation de ce qui va se passer en Égypte après, quand il y va, on voit bien que Dieu est à l'œuvre. Moïse ne fait qu'exécuter soit des commandements qu'il reçoit, soit des gestes qu'on lui dit de faire. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Tout comme la sortie d'Égypte. Parce que s'il n'y avait pas l'ange de l'Éternel, là, ils seraient tous passés à la casserole aussi. Quoi. Mm-hmm.
Si vous voulez, comme vous l'avez mentionné, tout comme la sortie du péché, seul Dieu peut le faire. Oui. Mm-hmm. L'homme ne peut pas.
Il y a des grands parallèles.
Merci.